Moi, j'ai mes créations, mais le client a son envie, ses idées, son projet. Et je veux prendre du temps pour l'écouter, pour qu'il me dise à quoi il pense et quelle histoire il a envie de raconter avec ce bijou. Et je pense que c'est important pour qu'il plaise longtemps et qu'il ait une autre dimension durable du bijou.
Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question : qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com/qu'est-ce-que-la-mode. Habillés, habilleurs, bonne écoute. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, Alexandre Delorf de Joaillerie Feldorf. Merci de ton accueil chez toi.
Merci à toi de nous rendre visite ici.
Bah, c'est magnifique, on a pu faire un petit passage dans l'atelier. Là, on est dans l'espace accueil pour un client et c'est juste super sympa de pouvoir faire cet épisode ici et juste à côté de l'espace où tu travailles, où tu crées et forme des bijoux. Je vais te laisser directement la parole. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais?
Donc moi, je suis Alexandre, je suis le joaillier de Feldorf. Feldorf, aujourd'hui, c'est ça, c'est moi le joaillier, et depuis quelques semaines, Clara, qui m'accompagne pour quelques temps pour la communication. Joaillier, c'est pas mon premier métier. Avant, j'ai été économiste à Paris, au service du Premier ministre, au ministère de la Santé, à l'assurance chômage. Et puis, il y a un moment où j'ai eu envie de revenir à un projet ancien, qui est celui d'être joaillier, de devenir joaillier. Ça a été un long périple, un long travail, des stages dans des grandes écoles de joaillerie, un CAP en bijouterie, du tutorat avec un joaillier à la retraite au Conservatoire des meilleurs ouvriers de France. Et c'est un projet qui tombe pas de nulle part. J'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, mais en fait, j'ai fini par identifier l'influence de mon père qui a commercialisé des minéraux de collection, mon grand-père qui travaillait le métal, il était ajusteur, il a été primé aux meilleurs ouvriers de France. Et puis, moi, je suis passionné d'art et en particulier d'architecture. Mmh. Et la joaillerie, bah, c'est un peu la synthèse de ces trois éléments et je les retrouve au quotidien dans mon travail. Et puis ça a été aussi l'opportunité de m'installer à Lyon, c'était important pour des raisons familiales et c'était important aussi pour des raisons professionnelles parce que la joaillerie à Lyon c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est vraiment une place merveilleuse de ce point de vue-là et j'ai pu ouvrir un atelier boutique à côté de la préfecture et profiter de fournisseurs essentiellement sur la presqu'île qui sont tous accessibles à pied, c'est ouais. Génial, c'est formidable.
Lyon, c'est la meilleure ville.
Ah, moi, je me régale. J'avais peur d'avoir idéalisé. En fait, c'est encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Ouais. On y prend beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est important de pouvoir y aller à pied chez mes fournisseurs lyonnais. Être à Lyon, j'ai déposé ma candidature pour le label Fabriqué à Lyon, qui sera arbitré à la fin de l'année et annoncé début 2023. Je suis assez confiant, je pense que je remplis bien les critères pour l'obtenir. C'est important parce que je me rends compte, même si ce n'est pas une posture, c'est comme ça que ça s'est construit, ma bijouterie, ma joaillerie, c'est un peu une sorte de slow jewelry à la lyonnaise. Je travaille avec des intervenants locaux, je travaille avec de l'or essentiellement recyclé ou fair mine quand on me le demande. Je fais de la transformation de bijoux, je peux réutiliser des pierres précieuses. On a des fournisseurs avec des pierres qui viennent d'Auvergne, donc tout près. C'est important, on en reparlera peut-être plus tard, d'avoir une approche un peu durable de cette activité-là. Et notamment le fait de travailler sur mesure. Tu as parlé de la boutique à côté de l'atelier. Bah, la boutique est très importante puisqu'elle me permet de recevoir mes clients. Ouais. Sur rendez-vous, on prend un moment long, généralement entre une heure et une heure et demie. Moi, j'ai mes créations, mais le client a son envie, ses idées, son projet. Je veux prendre du temps pour l'écouter, pour qu'il me dise à quoi il pense et quelle histoire il a envie de raconter avec ce bijou. Et je pense que quand on travaille bien de concert entre mon style et ses envies, le bijou à la fin doit raconter une histoire. Je pense que c'est important pour qu'il plaise longtemps et qu'il ait une autre dimension durable du bijou. Oui, je reçois à la boutique et aussi en visioconférence, okay. Ce qui me permet, j'ai plusieurs clients déjà à Paris, j'ai des clients italiens, j'ai eu une cliente anglaise, ça ouvre des perspectives vraiment sympas, mais toujours prendre le temps de pouvoir discuter.
Enfin, parce qu'on se dit, le bijou, la joaillerie, c'est un travail très précis, c'est précieux, c'est dans son atelier. Et là, tu mets un bel accent sur le relationnel. Mmh. Est-ce que c'est ça, justement, qui t'anime? Est-ce que ce sont les deux?
Il y a un moment, quand on est dans l'échange avec le client, il vient me voir parce qu'il a vu sur Instagram, sur le site internet ou ailleurs, mes créations, le style lui plaît, c'est moderne, c'est contemporain. Il s'y retrouve. Mais lui, il a quand même une idée particulière. Il veut un bijou à son image. Il y a une forme de co-création et c'est un gros challenge, c'est-à-dire que ça me pousse dans mes retranchements, ça m'oblige à innover, à ouvrir mes perspectives et ça me pousse beaucoup plus loin dans ma création. Et ça, c'est quelque chose qui est fort pour moi. De travailler avec le client à ce que je cherche à créer de beau, c'est un peu banal, mais le point de départ, c'est que quand mes enfants sont nés, j'ai eu envie de leur offrir du beau. Alors j'aurais pu faire de la littérature, j'aurais pu faire de la musique. Moi, c'est le travail avec mes mains, j'aime ça, j'aime l'artisanat d'art, j'aime voir les gens qui travaillent avec leurs mains. Il y a un concours de la Fondation Bédancourt-Schuller qui s'appelle l'intelligence de la main. Je trouve ça génial, j'adore ça. Et créer le beau avec mes mains, ben, c'était quelque chose qui me parlait vraiment beaucoup. Et quand je dis le beau, je cherche quelque chose qui est l'essence de la beauté dans la nature. Je prends l'exemple du logo de Feldorf. C'est inspiré d'une ammonite, mais c'est pas une reproduction à l'identique du coquillage fossilisé. C'est pas non plus la courbe en spirale de la suite de Fibonacci. C'est quelque chose qui est entre les deux, qui sort les éléments forts du dessin de ce coquillage. Et qui donne quelque chose d'un peu animé, qui donne quelque chose qui touche. Et dans mes créations, il y a souvent cette approche-là. Il y a une série de bijoux qui est plutôt inspirée de la nature, une autre qui est plutôt inspirée de la géométrie. C'est jamais totalement l'un, jamais totalement l'autre. Là, si je prends dans la ligne de la géométrie, il y a la bague qui s'appelle la voie de l'arc. C'est tout en courbe et en contre-courbe. C'est des formes acérées, des formes douces. C'est contrasté, c'est important pour moi qu'il y ait cette dynamique.
Cette tension un peu, ouais.
Et sur la ligne plutôt nature, j'ai un client qui m'a demandé un pendentif en forme de feuille de ginkgo biloba. J'ai été au parc de la Tête d'Or, j'ai pris une feuille de ginkgo biloba, je suis revenu à l'atelier, je ne l'ai pas recopié à l'identique, j'ai cherché à en tirer les lignes fortes et je voulais que... On ait l'impression qu'elle soit prête à s'animer avec le vent. Je voulais qu'il y ait quelque chose de dynamique. Je voulais qu'on le comprenne, quitte à réinterpréter, à rajouter des éléments, à tricher sur certaines proportions. Mais je veux tirer l'essence de ce que je vois. J'ai envie, plus tard, de tracer un chemin de création, qui mène vers quelque chose qui est un peu le chaos de la nature. C'est pas le chaos, le grand bazar, hein. C'est le chaos dans une approche mathématique, la théorie mathématique du chaos. Quand tu regardes un feu de bois, quand tu regardes les flammes, c'est une réaction physico-chimique, si tu la essayes de la modéliser mathématiquement, c'est impossible. Pourtant, quand tu la regardes, tu sais qu'il y a une flamme qui arrive, il y en a une autre qui s'en va, ça va bouger comme ci, comme ça, tu es capable de l'anticiper. Ouais. Et c'est fascinant. Tu restes là devant, tu le regardes, ça te fascine, tu es capable d'y passer un très très long moment. Et c'est ça le chaos mathématique dans la nature. Et moi, je serais tellement heureux de faire cette synthèse entre ma ligne nature, ma ligne géométrie, et d'arriver à illustrer ça, à saisir ça dans mes bijoux. Là j'aurais réussi. J'espère que j'y arriverai pas, parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête.
C'est une quête constante. Tous les jours, chaque bijou. En plus, avec une matière, tu parlais de flammes et de feu et les feuilles, on se dit oui, c'est très léger. Enfin, avec le vent, avec un souffle, ça peut bouger. Mais tu travailles quand même les métaux, le métal. C'est, on se dit, ben, c'est pas une feuille, quoi. C'est un vrai travail de force, quoi, vraiment, pour arriver à des bijoux dans la légèreté. Enfin, c'est. Ouais, enfin, c'est un rapport à la matière qui est assez contrasté.
Oui. Ouais. Mais je suis d'accord.
Et est-ce que justement, ça, ce serait la matière, tu parlais d'intelligence de la main, est-ce que ça, c'est ce qui pour toi définit la mode ?
Moi, j'aime pas trop ce qu'est la mode aujourd'hui. Il y a deux aspects qui me posent problème, c'est une grande standardisation, une grande uniformisation. Et pour les grandes entreprises du secteur, la solution, c'est de proposer un renouvellement parfois plusieurs fois dans l'année avec des vêtements, des accessoires ou des bijoux qui sont quasiment jetables. C'est pas le lien affectif que je veux avoir entre des objets de mode et toi. Ils doivent parler de toi, il faut que ça soit quelque chose d'un peu qui dure dans le temps. Et puis des conséquences environnementales qui me posent sérieusement question. L'approche que j'ai de slow jewelry à la lyonnaise, j'ai une première étape qui est d'avoir des bijoux qui sont durables, qui durent dans le temps, qui ne s'abîment pas. C'est facile, en joaillerie avec des métaux précieux, avec de l'or, du platine, ça ne s'altère pas, ça ne se désagrège pas, ça ne s'oxyde pas. Les pierres précieuses, les diamants, pour peu que tu prennes un peu soin, bah ça se transmet, ça a des milliards d'années, tu vas pouvoir le transmettre de génération en génération. Je pense aussi qu'il est important d'avoir des propositions, et c'est pour ça que j'insiste tellement sur la création, des propositions qui plaisent longtemps, parce que du coup, les bijoux seront portés longtemps, et je suis persuadé que cette idée d'avoir une histoire que raconte le bijou, cette histoire que porte le client, va faire qu'il va l'aimer longtemps, il va le porter longtemps, ou elle va porter longtemps, elle va l'aimer longtemps. Et moi, de travailler sur ma création, sur cette recherche de l'essentiel de la beauté de la nature, je pense que c'est ce qui est le plus pérenne, ce qui fait que ça va plaire. Bon, si j'étais plus là et qu'on continuait à porter mes bijoux, je le verrais pas, mais intellectuellement, je me dis que ce serait absolument fabuleux, ce serait formidable. Et puis la troisième dimension pour lutter un peu contre cette tendance de la mode un peu jetable, c'est de travailler à réduire l'impact de ma fabrication, c'est de travailler localement, c'est de travailler sur mesure. Ce que je fabrique, je le connais, je peux ou le réparer ou le transformer. En transformant des bijoux, on réutilise des matières, on réutilise des matériaux, et la possibilité de travailler avec tout cet environnement, cet écosystème lyonnais, je ne sais pas comment je pourrais travailler de manière plus efficace pour limiter les conséquences environnementales.
Donc c'est cette intégration dans le paysage lyonnais, de paysage de compétences, de savoir-faire, de sensibilité. Et puis aussi, on parlait de paysage, de réseau avec le village des créateurs, par exemple, d'être en écho avec d'autres personnes, d'autres approches. On va découvrir des personnes qui travaillent la terre. Là, on parle de métaux. Enfin, c'est vraiment riche de voir qu'en fait, la mode, c'est loin d'être justement des tendances qui passent comme ça chaque semaine. Mais c'est quelque chose qui perdure et qui matérialise l'histoire, en fait. Et donc, pour toi, c'est l'histoire de tes clients. Et après, l'histoire aussi d'un patrimoine, d'un héritage d'une ville, par exemple. Et c'est vraiment riche. Je sais qu'on pourrait en parler des heures encore, mais peut-être pour un prochain épisode, pour une suite. Mais merci en tout cas de nous avoir partagé ton histoire, ton approche et cette intelligence de la main aussi. J'aime beaucoup cette expression aussi.
Merci pour cette interview et cet intérêt que tu portes à une passion qu'on partage.
Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul, ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 euros par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram. Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.